Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. Jure sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Voici le. Saint Joseph, Saint Pédis, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On va mettre ce chat dehors. Hein? Trop de bruit. Allez, pile. Allez. Bien prêt. Alors, nous avons terminé le grand article de saint Thomas d'Aquin concernant l'explication du Notre Père. Donc je renouvelle mon conseil pour tous ceux qui le peuvent de lire le petit opuscule de saint Thomas, serment qu'il a donné en 1273 à Naples, expliquant de façon encore plus complète le Notre Père et je vous salue Marie. Deux petites annonces avant que j'oublie pour ceux qui m'écoutent sur internet. D'abord, je vous répète que j'ai mis la liste des retraites que je vais pouvoir prêcher Dieu aidant l'année prochaine 2019 sur internet, sur le site internet en page d'accueil. Attention, la retraite de Pâques est déjà pleine donc je ne peux plus prendre personne. Deuxièmement, je vais changer aussi les jours des cours, donc le cours sur l'exégèse des évangiles d'après les pères de l'église aura lieu le mercredi au lieu du mardi. Et les cours sur saint Thomas, sur la somme théologique de saint Thomas, auront lieu, le vendredi et le jeudi, ceci à partir de la semaine prochaine. Donc sur le polycopier, on en est à la page 103, deuxième paragraphe. Ceci va correspondre dans la somme de saint Thomas d'Aquin à l'article 10. Donc je vous rappelle où on en est, seconda secondé, question 83. Article 10. Donc, j'ai pas eu le temps trop d'expliquer à fond les rapports qui existent entre les dons du Saint-Esprit, les béatitudes et les formules et les sept demandes du Pater. Donc, vous avez ceci résumé en bas de la page 102 et en haut de la page 103. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur ces sujets. Hein, donc, vous pouvez. Ceux qui savent méditer, je vous conseille beaucoup aussi d'apprendre à méditer à partir de ces choses-là, de méditer sur les béatitudes et comprendre le lien qui existe entre les béatitudes et les demandes du Pater ou entre les béatitudes et les dons du Saint-Esprit. On comprend ces choses en les méditant. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Alors, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est quand même un cours de théologie, pas un cours de vie spirituelle. Alors, nous en sommes à la question 83, article 10, la prière était exclusivement propre à la créature raisonnable. Ça veut dire, d'autre forme, est-ce qu'il peut y avoir une prière de gens qui n'ont pas la raison. Donc il n'y a que deux, dans la créature du bon Dieu, il n'y a que deux genres de personnes, deux genres de nature, si vous voulez, qui ont la raison, les anges et les hommes. Point final. Saint Thomas va donc expliquer que la prière ne correspond absolument pas aux êtres privés de raison. Et la prière en tant que telle ne correspond pas, il va expliquer ça très bien, la prière ne correspond plus non plus pas du tout à Dieu. Dieu ne prie pas. On le prie, mais lui ne prie pas parce qu'il est Dieu. Donc vous avez un petit résumé à la page 103 sur le polycopier au deuxième paragraphe. Les personnes divines n'ont rien qui leur soit supérieur. Les bêtes ne possèdent pas la raison, ni les personnes divines, ni les bêtes ne peuvent donc prier, et cet acte reste propre à la créature raisonnable. Donc je répète, parce que ça, il y a beaucoup de confusion là-dessus. Souvent, les gens me demandent, j'ai eu souvent des messages, des questions de ce genre, directement ou indirectement, des gens qui me demandent, mais monsieur l'abbé, on ne connaît pas tout, est-ce qu'il est possible qu'il y ait d'autres créatures raisonnables que les anges et les hommes? La réponse est non. Parce que si notre Seigneur Jésus-Christ, si Dieu avait créé d'autres créatures raisonnables, autres que les anges et les hommes, ben, il y aurait quelque chose dans la Bible sur le sujet. Oh, il n'y a absolument rien. Tout ça, en fait, ça vient d'une idée très, très, très nauséabonde des modernes qui veulent absolument éviter de considérer que la terre est au centre de la création. La terre est au centre de la création parce que Dieu a créé les êtres raisonnables, les hommes, uniquement sur la terre. Donc il y a deux lieux avec un lieu avec une gloire particulière, évidemment, c'est le paradis, et le deuxième lieu avec un honneur particulier, c'est la terre. Donc la terre est vraiment au centre de l'univers. C'est pour ça que toutes les recherches ridicules qui sont faites par les différentes puissances mondiales pour essayer de prouver qu'il y a des extraterrestres, le bouilli pour chat, il n'y a rien du tout, ils n'ont jamais rien trouvé, et ils prétendent toujours qu'il y a des tas de choses extraordinaires hors de la Terre, mais c'est absolument faux, il n'y a rien du tout, absolument rien. Là, j'ai eu un article encore qu'on m'a envoyé il n'y a pas longtemps sur les gens qui disent, oui, mais maintenant on est bien obligé de reconnaître que c'est vrai que la vie n'est pas apparue sur la Terre, mais elle est apparue dans d'autres planètes, et des autres planètes, elle est apparue sur la Terre par la météorite des autres planètes qui sont venues bombarder la Terre. On répond toujours pas à la même question. Et sur les autres planètes, d'où vient la vie? Et donc, il faut pas avoir peur d'affirmer avec certitude, seuls les anges et les hommes sont des êtres raisonnables. Bien sûr, il y a Dieu, mais Dieu, c'est une exception. Donc seuls les anges et les hommes sont capables de prier. Donc la faiblesse naturelle, dit saint Thomas, de l'esprit humain ne lui permet pas de demeurer longtemps dans les hauteurs. Le poids de la faiblesse humaine ramène l'âme à des régions plus basses, et l'esprit qui dans la prière était monté vers Dieu par la contemplation se trouve souvent errant à l'aventure par suite de notre fragilité. On verra plus tard que saint Thomas explique que la vie la plus parfaite ici-bas sur la terre, c'est pas la vie contemplative. C'est un mélange de vie contemplative et de vie active. Au ciel, il n'y aura que la vie contemplative, plus une vie active au ciel. Mais on n'est pas encore au ciel. Donc il y a la vie parfaite, la vie la plus proche de la perfection sur la terre, c'est pas la vie active, parce qu'il manque justement la partie contemplative, mais c'est pas non plus la contemplation seule, parce que la contemplation seule est dangereuse pour l'homme. L'homme a besoin d'avoir les deux pieds sur la terre et la tête au ciel. Donc la tête au ciel, c'est le symbole de la contemplation, et deux pieds sur la terre, c'est le symbole de l'action. Donc il faut les deux choses. Vie contemplative associée à la vie active. Sinon, on peut arriver à faire des bêtises énormes. C'est pour ça que même dans les ordres très contemplatifs, l'Église imposait à ces ordres très contemplatifs, je pense par exemple aux Chartreux, l'Église imposait une certaine forme de travail manuel. Bon, adapté aux règles, aux constitutions de cet ordre, mais les Chartreux avaient un travail manuel à faire par eux-mêmes, où ils s'occupaient de leur petit jardin qui était derrière leur cellule, où ils fendaient du bois, où ils faisaient des choses comme ça. Mais les grands anachorètes du désert, tout au début de l'histoire de l'Église, à partir du 3e, 4e siècle, qui vivaient en Égypte, dans les déserts d'Égypte, avec des pénitences invraisemblables, l'Église leur imposait également des travaux manuels. Entre autres, ils faisaient des nattes avec les feuilles de palmier. Et pour être sûr qu'ils faisaient un travail manuel, qu'ils ne passaient pas toute leur journée en pure contemplation sans travail manuel, eh bien, les supérieurs exigeaient un certain nombre de nattes qu'ils devaient présenter en fin de semaine quand ils venaient se réunir auprès de l'évêque en général ou auprès du supérieur, de l'abbé supérieur, pour pouvoir avoir l'office en commun et la messe, parce que la plupart n'étaient pas prêtres. Eh bien, les supérieurs exigeaient un nombre de nattes. Et on vendait ces nattes pour nourrir les moines et faire les réparations qui étaient nécessaires dans les bâtiments. Oui. Donc, cette phrase me semble importante. La faiblesse naturelle de l'esprit humain ne lui permet pas de demeurer longtemps dans les hauteurs. Reprenons un petit peu ce texte de saint Thomas à partir des commentaires du Père Le Breton que je suis. Donc, il dit que la prière, acte de la raison par lequel on supplie un supérieur, ne convient donc qu'à l'être raisonnable soumis à un supérieur. Bon, Dieu n'étant soumis à aucun supérieur, évidemment, il n'a pas besoin de prier. Les personnes divines n'ont pas de supérieur, les animaux n'ont pas de raison. Donc la prière ne convient pas aux personnes divines. Ce qui veut donc dire que la prière qui ne correspond ni aux personnes divines, à Dieu, ni aux êtres privés de raison, est exclusivement propre à la créature raisonnable. Donc la créature raisonnable étant créée par définition, a l'obligation de prier. Une créature raisonnable qui ne prie pas, la seule excuse pour une créature raisonnable de ne pas prier, c'est une créature qui n'a pas l'usage de sa raison. Donc un bébé, par exemple, qui n'a pas encore l'usage de la raison, est dispensé de prière. Un homme, même un adulte, qui n'a pas l'usage de sa raison, parce qu'il a une malformation au système nerveux central, par exemple, donc qu'il a une tare physique, une tare importante, est dispensé de prier. Mais nous sommes tenus de prier. Donc c'est pas quelque chose de facultatif, c'est quelque chose d'obligatoire. On va voir ça plus tard, parce que à partir du moment où on est créature, qui dit créature dit lien avec un créateur. Et ce lien avec un créateur, c'est quoi? Le lien avec notre créateur, c'est ce qu'on appelle la prière. Donc, alors il y a une objection qu'on entend souvent, qui dit, mais notre Seigneur Jésus-Christ, sur la terre, a dit, c'est dans Saint Jean chapitre 14, verset 16, il parle de prier son Père. Donc il priait. Il est évident que là, il parle en tant qu'homme, non pas en tant que Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu, vrai homme. En tant qu'homme, il peut prier son Père. En tant que Dieu, il ne peut pas. Bon, là, l'autre parole citée par le Père Le Breton, si l'Esprit, ce Saint-Esprit prie pour nous, avec des gémissements ineffables, signifie que le Saint-Esprit nous porte à prier. Si l'Écriture nous dit encore que les petits des corbeaux invoquent Dieu, c'est pour marquer le désir naturel qui porte tous les êtres à vouloir, chacun selon son nature, participer à la bonté divine. Donc un oiseau qui fait son nid, au temps prescrit par le bon Dieu, un animal qui se nourrit dans la nature participe à la gloire du bon Dieu. Hein, c'est absolument évident. Mais cette participation n'est pas une participation raisonnable. Pas une participation raisonnable. Donc un homme créé, donc, comme tous les hommes, qui refuse de prier, c'est donc un homme qui refuse la partie raisonnable. Et c'est le monde moderne. Le monde moderne voudrait agir comme s'il n'avait pas la raison. Or l'homme a une raison, s'il a une raison, il doit utiliser sa raison pour atteindre le vrai, comme le vrai avec un grand V c'est d'abord Dieu, donc l'homme raisonnable est tenu, sous peine de péché, est tenu d'honorer et de prier son Créateur. Et tous les hommes, même s'ils n'ont pas la foi catholique, sont tenus de chercher leur Créateur, puisque vous savez qu'on peut découvrir, prouver l'existence de Dieu, même si on n'a pas la foi catholique. On peut prouver l'existence de Dieu avec l'usage de la raison. Simplement en considérant l'ordre qui règne dans le monde, par exemple, c'est le début de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, en considérant l'ordre qui règne dans le monde, on peut arriver jusqu'au gouvernement de cet ordre dans le monde. S'il y a un ordre dans le monde, c'est qu'il y a une intelligence qui ordonne tout. S'il y a un mouvement dans le monde, c'est qu'il y a quelqu'un qui donne le mouvement au monde. S'il y a des choses qui apparaissent, c'est qu'il y a quelque chose qui les provoque. Et donc, si on remonte de l'œuf à la poule, on est bien obligé d'arriver à la première poule, au premier œuf, et donc à la créature, à la poule ou à l'œuf créé par Dieu directement. Donc ça c'est important. Et ce sont des articles tout simples, mais très importants justement pour bloquer cette tendance moderne, si vous voulez, d'essayer de prétendre, on entend ça tout le temps, de prétendre que seuls les catholiques sont tenus de prier Dieu. Les autres sont dispensés. Non. Parce que tout homme a une intelligence. Et tout homme ayant une intelligence, tout homme a le pouvoir de se dire d'où est-ce que je viens? D'où viens-je? Donc, puisqu'il est capable de se dire d'où est-ce que je viens, il est capable simplement avec son intelligence de découvrir qu'il vient de quelqu'un qu'il a créé. Et ce quelqu'un qu'il a créé, même s'il ne le connaît pas de façon directe, il a une obligation de le prier d'une façon ou d'une autre. Bon, attends, il est évident que le bon Dieu ne va pas juger de la même façon un catholique qui a reçu la foi catholique par son baptême et un pauvre gars qui n'a jamais entendu parler du bon Dieu, c'est évident. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout homme, même en tant que créature, tout homme a une intelligence créée à l'image de Dieu, et donc par cet usage de cette intelligence, il faut remonter à celui qui a créé l'intelligence. On appelle... pour quelqu'un d'honnête, ce qu'on appelle le baptême de désir implicite. Le baptême de désir implicite qui est donné par le bon Dieu à ceux qui, sans faute de leur part, n'ont jamais connu le bon Dieu, mais ont une droiture de raison. Alors, on continue, je vais insister plus sur les articles évidemment importants. Donc, j'ai mis des résumés à la page 103 du polycopier. Donc les saints du ciel peuvent-ils prier pour nous? C'est l'article 11. Bon, là, on touche au dogme de la communion des saints. Est-ce que les saints prient pour nous? Pourquoi? Parce qu'il y a un échange de prières entre les trois parties de l'Église, trois parties dans l'Église. L'Église du ciel, l'Église du purgatoire, l'Église de la terre. L'Église du ciel, c'est ce qu'on appelle l'Église triomphante. L'Église du purgatoire, l'Église souffrante. Et l'Église de la terre, c'est l'Église militante. Pourquoi ? Parce que miles en latin, ça veut dire le soldat. Donc ici, on est en combat. C'est le rôle du soldat de se battre. Donc on fait partie, vous et moi, de l'Église militante. Bon. Donc il y a un lien, un échange de prières entre ces trois églises. Ce qu'on appelle la communion des saints. Et c'est à cause de la communion des saints, qui est un dogme extrêmement réconfortant dont on ne parle pas assez, c'est à cause de la communion des saints, justement, qu'il y a une possibilité pour nous de nous faire aider directement par les âmes qui sont au ciel et indirectement par les âmes purgatoires. Donc saint Thomas, que j'ai expliqué dans d'autres parties de mes commentaires, que saint Thomas d'Aquin pense que les âmes du purgatoire ne peuvent pas prier directement pour nous. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dans une situation totalement passive. Purgatoire, on est passif. On se purifie passivement pour les pénitences qu'elles n'ont pas suffisamment faites ici-bas sur la terre. Donc à cause de cette passivité, une âme du purgatoire ne peut strictement rien faire pour nous. Par contre, on peut prier pour elle. Il y a deux fois que le purgatoire existe, il y a aussi deux fois qu'on peut prier pour les âmes du purgatoire par voie de suffrage. Donc les âmes du purgatoire, une fois qu'elles ont fini leur temps purgatoire, montent au ciel et à ce moment-là font partie, passent de l'église souffrante à l'église triomphante, et en tant qu'église triomphante peut prier pour nous. Donc les âmes qui viennent du purgatoire et qui rentrent au ciel, n'oublient pas évidemment tous leurs bienfaiteurs spirituels qui ont prié pour elles, et donc une fois qu'elles sont au ciel, à ce moment-là, elles peuvent nous aider de leur suffrage. Donc voyons un petit peu ce que dit saint Thomas dans cet article 11, les saints du ciel prient-ils pour nous ? Donc les saints du ciel, dit saint Thomas, prient d'autant plus pour nous que leur charité est plus parfaite. Leurs prières sont d'autant plus efficaces qu'ils sont unis à Dieu par des liens plus intimes. Bon, est-ce qu'un pécheur doit prier ? Bien sûr. Un pécheur doit prier. On a parfois des gens qui viennent se laver, je suis en état de péché mortel, donc j'ai arrêté de prier. Je leur dis, mais vous êtes bête comme tout. C'est précisément parce que vous êtes en état de péché mortel qu'il ne faut pas arrêter de prier. Parce que si vous avez le malheur d'être en état de péché mortel, ça ne veut pas dire que le bon Dieu vous a abandonné pour autant. Le bon Dieu va vous donner les grâces d'état, et plus exactement les grâces actuelles, pour que vous puissiez augmenter la contrition de votre péché dans votre cœur et revenir à la charité du bon Dieu par le sacrement de pénitence ou par un acte de charité parfaite. Donc, les pécheurs doivent prier. C'est surtout les pécheurs qui doivent prier. Ton Seigneur Jésus-Christ l'a bien dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Donc, les prières sont d'autant plus efficaces que nous sommes unis à Dieu par des liens plus intimes. Donc, je suis uni à notre Seigneur Jésus-Christ par la charité, surtout par un grand, grand degré de charité, c'est évident que mes prières seront plus efficaces. Les gens souvent nous posent la question à propos de la messe en disant, Monsieur l'abbé, est-ce qu'une messe célébrée par un saint prêtre est plus méritoire qu'une messe célébrée par un prêtre moins saint? Donc il y a une double réponse. La première réponse est de dire que la messe en tant que telle est indépendante, à un mérite indépendant de le prêtre qui la célèbre, à partir du moment où c'est une vraie messe. Bon. Si c'est une vraie messe qui est célébrée, quel que soit le prêtre qui la célèbre, c'est la messe, même un prêtre indigne ou un prêtre qui vit dans le péché mortel, malheureusement, et bien à partir du moment où il est vraiment prêtre, il prononce les paroles de la consécration avec l'intention de faire ce que veut faire l'Église, pendant la Sainte Messe, la présence réelle est là. Donc, si vous demandez une messe pour telle âme du purgatoire, la messe en tant que telle, même célébrée par un prêtre qui n'est peut-être pas très saint, a une valeur infinie à cause du fait que c'est une prière impétratoire à Dieu, une prière d'adoration à Dieu, une prière de réparation à Dieu, et Dieu est infini. Bon. Cependant, il y a on appelle une gloire accidentelle qui est ajoutée par la sainteté personnelle du prêtre. C'est-à-dire que si un prêtre est plus saint, évidemment que si le Saint-Curé d'Ars célébrait la Sainte Messe, bon, ben, il est bien infiniment plus saint que la biographie, c'est pas compliqué d'ailleurs, pas difficile. Donc, un saint curé d'Ars célébrait la même messe que la biélafite. En tant que telle, la messe du saint Pie de saint curé d'Ars et la messe de la biélafite ont la même valeur, mais à cause de la sainteté personnelle du saint curé d'Ars qui n'est pas en la biélafite, la messe du saint curé d'Ars apporte une gloire accidentelle à Dieu supérieure à la messe célébrée par la biélafite. Voilà ce que disait saint Jérôme, qui est cité ici par saint Thomas d'Aquin. Si les apôtres et les martyrs, encore enveloppés de leur corps et obligés de songer à leur propre salut, prier pour les autres, à combien plus forte raison ne doivent-ils pas prier maintenant qu'ils sont couronnés, victorieux, triomphants? Donc il est évident que les âmes qui sont au ciel vont prier de façon beaucoup plus efficace pour chacun d'entre nous, surtout pour les personnes à qui ils sont redevables sur le plan spirituel. Donc l'efficacité de la prière des saints, ainsi, vient de deux sources. D'une part, des mérites qu'ils ont acquis sur la terre, et deuxièmement, de la bonté divine qui reçoit leur supplication. Donc Dieu veut que les êtres inférieurs soient aidés et secourus par tous les êtres supérieurs. Nous sommes des êtres inférieurs sur le plan de la raison, on est des êtres raisonnables, on est supérieurs aux animaux, c'est évident, mais nous sommes inférieurs aux anges, inférieurs bien sûr aux gens, aux âmes qui sont au ciel. Donc Dieu veut que les êtres inférieurs que nous sommes, ici-bas sur la terre, soient aidés, secourus par ceux qui sont au ciel. Article 12, toujours dans la question 83. Question 83 est une question particulièrement importante, c'est d'ailleurs une question assez longue, c'est une des plus longues de la somme. C'est la question sur la prière, puisqu'il y a 17 articles dans cette somme, dans cet article, c'est un des plus longs de la somme. L'article 12, donc saint Thomas se pose la question de savoir si la prière doit être vocale. Donc, il faut distinguer, j'ai déjà fait plusieurs sortes de prières, des prières qui peuvent être vocales, c'est-à-dire faites avec la voix, et une prière mentale faite avec l'esprit. C'est évident qu'il y a tous les intermédiaires. En tant que tel, une prière vocale est toujours aussi mentale. Si on prie uniquement avec la bouche, mais notre cœur ne participe pas à la prière, bon, il est évident que c'est un peu de l'hypocrisie. Donc, les prières purement vocales, en soi, ça n'existe pas. Toute prière, même vocale, est aussi en partie mentale. Bon. Cependant, il y a des prières qui sont purement mentales sans être vocales. Par contre, les prières vocales pures sans être mentales en même temps n'existent pas. Bon. Donc, la prière, l'Église demande dans certains cas une prière vocale. Entre autres, dans les cas où plusieurs personnes, une personne prie au nom de l'Église. C'est le cas, par exemple, de la Sainte Messe. C'est pour ça, par exemple, que lorsque le prêtre célèbre la Sainte Messe, même s'il est seul, il ne va pas célébrer la messe en silence complet. Il y a des tons de voix qu'il doit utiliser. Parfois, il va parler à voix haute, parfois à voix basse, mais même quand il parle à voix basse, il doit prononcer les paroles. Ce n'est pas une simple lecture du texte de la messe. Le prêtre qui célèbre la messe, même seul, est obligé, même pour les parties à voix basse, par exemple les parties du canon, tout le canon est à voix basse, et bien toutes ces parties doivent être prononcées. C'est pour ça que quand vous voyez un prêtre même qui célèbre sa sainte messe tout seul, ses lèvres doivent bouger pour prononcer les paroles. Et l'Église demande dans ces cas-là que le prêtre puisse s'entendre. Il ne demande pas à ce qu'il parle tout fort, il doit s'entendre. C'est pareil pour le bréviaire. Le bréviaire, c'est la prière officielle de l'Église. Comme c'est une prière officielle de l'Église, elle doit être faite au nom de l'Église, elle n'est pas donc simplement lue, elle est récitée. Donc le prêtre qui lit son bréviaire même tout seul, car pour moi tous les jours, donc le prêtre qui lit son bréviaire tout seul doit prononcer les paroles. Ce n'est pas une simple lecture, c'est un prêtre qui lit son bréviaire, oui, c'est l'élève qui prononce les paroles justement, parce que c'est une prière vocale. C'est évident que le bréviaire n'est pas simplement une prière vocale, mais aussi une prière mentale, de même que la Sainte Messe n'est pas simplement une prière vocale, mais aussi une prière mentale. Il y a les deux qui travaillent ensemble. Alors voyons un petit peu ce que dit saint Thomas là-dessus. Donc il dit qu'il y a deux sortes de prières. On fait d'abord une première distinction entre la prière publique et la prière particulière. La prière publique doit être connue de tout le peuple pour lequel elle est faite, ce qui n'est possible qu'autant qu'elle est vocale. Donc, il faut bien faire attention, la messe, la sainte messe par exemple, le bréviaire c'est pareil, c'est une prière publique. Même lorsque le prêtre dit son bréviaire en privé, il dit une prière publique parce qu'il prie au nom de l'Église. On dit que le prêtre, c'est le qui lit son bréviaire, le diacre qui lit son bréviaire, ou même le sous-diacre, puisque le sous-diacre est déjà tenu au bréviaire sous peine de péché grave, pour la moindre petite heure manquée. Donc le sous-diacre, le diacre, le prêtre, et bien sûr l'évêque et le pape, qui disent leur bréviaire, même en privé, prient au nom de l'Église. Donc ce n'est pas une prière privée, c'est déjà une prière publique, même si elle est dite en privé. Prière publique en privé, dans le sens que le prêtre prie au nom de l'Église, donc n'a pas le droit dans le choix des rubriques de faire ce qu'il veut, il va suivre les rubriques qui sont prévues pour la récitation du bréviaire, de même que dans la Sainte Messe, le prêtre n'a absolument pas le droit de supprimer une oraison, de rajouter une oraison si ça lui plaît. S'il y a trois oraisons, il va falloir lui en dire qu'à tous cinq. Moi, je connaissais un prêtre, il y a un très bon prêtre d'ailleurs, c'est bien des cas, mais il est très connu à Icône, un vieux prêtre qui rajoutait toujours des tas de raisons. Alors il y en avait 5, 6 ou 7 raisons à ses messes parce qu'il rajoutait une raison pour Saint-Michel, une raison pour Saint-Gabriel, une raison pour Saint-Raphaël parce qu'il avait une grande dévotion aux Saints-Anges. Très bien. Mais Mgr Lefebvre nous a fait remarquer discrètement que ce n'était pas du tout l'esprit de l'Église. Il nous interdisait de le faire. Vous voyez ? La prière d'une personne privée, donc ne sont pas les prières d'une personne privée, ne sont pas essentiellement vocales. On y joint la parole. Je reprends le texte. C'est avec sagesse, le texte de saint Thomas. C'est avec sagesse, donc on est à l'article 12 de la question 83. C'est avec sagesse que l'Église a enjoint à ses ministres de prononcer les prières publiques à haute voix pour qu'elles arrivent à la connaissance de tous les fidèles. Les prières d'une personne privée ne sont pas essentiellement vocales, mais on y joint la parole pour trois raisons. D'abord, pour s'exciter soi-même à la dévotion intérieure. Donc, le prêtre va prononcer aussi des paroles, aussi pour éviter les distractions. Quand on lit à haute voix, c'est plus facile d'éviter une distraction que quand on lit à voix basse. Bon. Deuxièmement, pour consacrer à Dieu ce qu'on a reçu de lui. Et enfin, troisièmement, parce qu'il est naturel que l'âme vivement affectée exerce une action sur les organes du corps. Donc, la prière vocale du prêtre pendant la messe, c'est évidemment en même temps une prière mentale, les deux à la fois. D'accord ? C'est pour ça que le prêtre doit faire attention de ne pas transformer sa messe en un acte de dévotion privée. Bon, on cite toujours en exemple les messes magnifiques de, par exemple, du padre Pio, qui partait en extase pendant sa messe. Bon, très bien, mais Mgr Lefebvre nous expliquait qu'on a la formation qu'on a reçue au séminaire, que c'est à admirer, mais surtout pas imiter. Vous voyez ? Imaginez un prêtre qui se passe le prétexte de dévotion privée, mettre 2 heures pour dire sa messe, par exemple. Eh bien, ça serait déplacé, quelque chose qui ne va pas. Vous ne pourriez pas dire, ah, mais il y a une grande dévotion à sa messe, sa messe est beaucoup plus valable qu'un prêtre qui dit sa messe en 35 ou 40 minutes, parce que lui a beaucoup plus de dévotion, il dit sa messe en 2 heures. Non, dire sa messe en 2 heures, c'est déplacé. De la même façon, d'ailleurs, l'inverse, c'est vrai. Hein. Un prêtre qui dirait sa messe, comme il y a des prêtres qui disent leur messe en 20 minutes, c'est beaucoup trop rapide. Donc il faut faire attention, encore une fois, on a le droit d'avoir des prières privées, par exemple votre méditation tous les jours, pour ceux qui méditent, vous pouvez choisir le sujet de votre méditation, vous êtes parfaitement libre. Mais par contre, quand le prêtre prie au nom de l'Église, il prie au nom de l'Église surtout dans 2 cas, d'abord la récitation du bréviaire, deuxièmement la récitation de la Sainte Messe, dans l'offrande de la Sainte Messe, là il prie au nom de l'Église, et donc il n'a plus le droit de transformer le bréviaire et la messe en acte de dévotion privée. Donc il n'a pas le droit de rajouter des oraisons particulières au bréviaire, il n'a pas le droit de rajouter des choses, de supprimer des choses pendant cette messe. Il doit réciter les choses telles qu'elles ont toujours été dites et faites par l'Église. Alors ça, les modernes ne comprennent pas ça du tout. Combien de fois on entend ça des prêtres modernes qui vous disent « Oui, mais votre bréviaire, c'est tout à fait mécanique, vous répétez toujours les mêmes choses. » Ben, vous savez, il y a déjà une richesse dans le bréviaire. Si les gens savaient par cœur le bréviaire, c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme. Mais c'est pas quelque chose de mécanique. Le bréviaire, c'est la prière officielle de l'Église. On dit que le prêtre est la bouche de l'Église, donc la bouche de notre Seigneur. Donc le prêtre prie officiellement au nom de l'Église. D'abord par le bréviaire, parce que le bréviaire passe avant la messe. J'ai expliqué ça souvent, que le bréviaire est obligatoire sous peine de péché mortel. Pour chaque petite heure, c'est-à-dire l'office de tierce, de sexe ou de nonne, par exemple, ça prend à peu près 5 minutes, un prêtre qui manquerait à cet office par paresse commet déjà une faute grave. D'accord ? C'est pareil pour la messe, il prie au nom de l'Église. Donc quand on prie au nom de l'Église, on met sa volonté propre dans la poche, le mouchoir partout, on l'oublie. D'accord ? Donc le prêtre n'a pas le droit de faire intervenir sa dévotion personnelle en rajoutant des choses qui ne sont pas prévues dans la liturgie de l'Église, tant pour le bréviaire que pour la messe. C'est pour ça que dans le missel et dans le bréviaire, dans les deux, il y a toute une série de rubriques, il y a beaucoup d'explications donc qui sont écrites en rouge en général sur les bréviaires et sur les missels. C'est pour cela qu'on les appelle rubriques, parce que rubère en latin, ça veut dire rouge. Donc les parties en rouge, ici, vous regardez un missel romain, un missel d'autel, les parties des textes en noir et des textes en rouge. Texte en noir, c'est ce qu'on doit dire, texte en rouge, c'est explication des gestes à faire pendant les prières. Donc tout est prévu par l'Église. Et donc il faut avoir cet esprit d'obéissance, et malheureusement l'esprit de la révolution est passé, maintenant c'est des obéissances en tout. Alors les prêtres modernes ne veulent plus dire de bréviaire, c'était supprimé d'ailleurs par Montini, Paul VI, et puis ils font un peu n'importe quoi avec la messe moderne. Et non, c'est pas du tout l'esprit de l'Église. On prie tel que le bon Dieu a demandé à ce qu'on prie. Il y a des prières qui sont imposées, des prières qui sont libres. Quand vous êtes libre, faites ce que vous voulez, mais pas quand vous priez au nom de l'Église. Article 13 de la question 83. L'attention est-elle nécessaire à la prière? La question, si vous voulez, c'est une question importante. On peut la changer le titre en disant, est-il possible de prier sans distraction? La réponse est non. Personne ne peut prier sans distraction, sauf notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Vierge. Vous connaissez sans doute cette histoire qu'on a dans la vie de Saint Philippe Néri. Saint Philippe Néri avait fait un sermon donc, sur la prière, et il avait dit dans son sermon, il est impossible de prier sans distraction, c'est notre nature humaine. À la fin de la messe, donc il y a un monsieur qui vient le voir à la sacristie, qui va entendre ce serment, qui lui dit « Mon père, moi je peux prier sans distraction. » Alors le Saint-Philippe Néri lui dit « Ah bon ? Si vous êtes capable de dire devant moi, un autre père, devant moi, à haute voix, sans distraction, je vous donne mon cheval. » Alors le gars tout content, il commence « Notre père qui êtes aux cieux, que votre nom... » »« Vous donnez la selle avec le cheval, hein ?» Bon, Saint-Philippe Néri a gardé son cheval parce que l'autre avait une distraction. Mais c'est pour ça que les gens viennent me dire j'arrive pas à prier sans distraction, c'est impossible. Je leur dis toujours bienvenue au club. Hein. Bienvenue au club, c'est impossible ici-bas pour un être humain de prier sans distraction, surtout pour une longue période de temps. Moi, ça m'arrive de distraire pendant mon voyage, malheureusement, ça m'arrive de prier distrait pendant la Sainte Messe aussi. Bon, il faut évidemment faire attention quand on prie au nom de l'Église, surtout le bréviaire, donc le bréviaire et la Sainte Messe, d'éviter les choses incompatibles avec l'attention requise. Mais c'est pratiquement impossible d'éviter les distractions. On évitera les distractions si on ne veut pas. Alors, donc voilà ce que dit Saint Thomas. L'attention est-elle nécessaire à la prière? Donc il dit les effets de la prière sont au nombre de 3. Le premier, c'est le mérite, commun à tous les actes inspirés par la charité. Bon. Le second effet de la prière, c'est l'impétration. L'impétration, c'est la demande. Bon. Donc le mérite, commun à tous les actes inspirés par la charité, et l'impétration pour demander les grâces dont on a besoin. Pour être exaucé, dit saint Thomas, il suffit encore de la première intention, que Dieu considère spécialement, mais si elle fait défaut, la prière n'est ni méritoire ni écoutée. Donc il faut, comme minimum, si vous voulez, pour être écouté par Dieu, il faut que notre prière soit méritoire devant Dieu. Bon. Dieu, dans sa miséricorde, va aussi écouter les prières des pécheurs, qui pourtant en soi ne sont pas méritoires. N'oubliez pas que si nous ne sommes pas en état de grâce, on ne peut pas gagner un mérite. Et Dieu, dans sa bonté, écoute la prière des pécheurs si les pécheurs prient avec humilité. C'est la règle. Le bon Dieu ne refuse jamais d'écouter, ne refuse jamais la prière de quelqu'un qui prie la grâce à quelqu'un qui la demande avec humilité. Donc un pécheur qui sait se mettre à genoux en demandant pardon pour ce qu'il a fait de mal et qui demande avec humilité la grâce de la conversion, le bon Dieu sera sensible à cette prière. Observons maintenant, dit Saint Thomas, que dans la prière vocale, dont nous parlons principalement, donc on peut être attentif de 3 manières. Il y a une attention qui s'attache d'abord à bien prononcer les paroles. L'autre qui cherche à pénétrer le sens. Le troisième se porte vers Dieu, vers les choses qu'on lui demande. Donc, dans les prières officielles de l'Église, le bréviaire et la Sainte Messe, le ministre, le prêtre, ou pour le bréviaire, le sous-diacre ou le diacre, doit faire attention à bien prononcer les paroles. Et la prononciation des paroles est plus importante que pénétrer le sens. Parce que la messe est valide, même si le prêtre ne comprend pas forcément chaque mot de son bréviaire. Moi, je ne suis pas bon en latin du tout, j'ai un problème, je n'ai malheureusement pas fait de latin au séminaire d'éco, mais très peu, parce que ce n'était pas prévu que les séminaristes rendent sens en latin. Dans mon année, on n'était que 3 à avoir jamais fait de latin. Tous les autres en avaient fait, donc je ne suis pas très, très bon en latin. Et mon bréviaire, je ne comprends pas tout le temps. Le texte, par exemple, j'ai un texte de Léon XIII, du pape Léon XIII, ou un texte des pères de l'Église, c'est souvent assez difficile en latin, et donc quand j'ai le temps, j'essaie de les lire en français, justement avant, pour mieux les comprendre. Mais si je dis mon bréviaire avec l'intention de plaire à Dieu, l'intention de remplir mon office de prêtre, de mon obligation de dire le bréviaire tous les jours, même si je ne comprends pas une partie de mon bréviaire, la prière est méritoire. Sainte Thérèse d'Avila, a dit son bréviaire complet, puisqu'elle était dans un grand ordre, l'ordre des Carmes, des Carmélites. Elle lisait son bréviaire tous les jours, il était tenu, et elle n'avait jamais fait de latin. Mais à partir du moment où elle prononce les paroles de l'Église, eh bien, elle remplit son office. Et donc parfois les gens me demandent, mais pourquoi vous dites votre messe en latin, pourquoi vous priez en latin, pourquoi vous dites priez pas en français? Je dis, moi je comprends mal le latin, mais le bon Dieu le comprend très bien. Et je m'adresse à lui, je ne m'adresse pas à vous. Donc à partir du moment où je dis mon bréviaire en latin, le bon Dieu le comprend. Donc il faut à la fois prononcer les paroles correctement, chercher à en pénétrer le sens quand on peut le faire. Troisièmement, se porter vers Dieu, vers les choses qu'on lui demande. Par exemple, un prêtre qui lit son bréviaire, c'est pas le moment de chercher à traduire son bréviaire. On peut le faire en dehors. Ça, je conseille beaucoup à ceux qui peuvent mettre la main dessus, je l'ai déjà conseillé, de trouver le livre de Don Gréa, qui s'appelle le bréviaire romain, qui est la traduction française du bréviaire traditionnel. En deux volumes, mais il est difficile à trouver. On trouve parfois chez les bouquinistes, c'est tout simplement toutes les prières du bréviaire en français. Et il y a des choses magnifiques, entre autres, je n'ai pas le temps de tout lire, lisez au moins, pour ceux qui peuvent, qui ont ce livre, en deux volumes, lisez les leçons des matines. En général, il y a 9 leçons pour les matines. Les matines, c'est l'office de la nuit. Donc, 3 leçons pour le premier nocturne qui correspond aux leçons de l'Ancien Testament. 3 leçons du deuxième nocturne qui correspond à la vie du saint. Et 3 leçons pour le troisième nocturne qui correspond à l'explication des pères de l'Église de l'Évangile du jour. Ben, en lisant ça, déjà, vous nourrissez de façon extraordinaire votre âme. D'accord ? Donc, il faut se porter vers Dieu et vers les choses qu'on lui demande. Cette dernière, dont tous les fidèles, même les plus simples, sont capables, est la plus nécessaire. Elle est parfois si puissante qu'elle fait oublier tout le reste. Bon. Pendant, chacun prie avec les grâces qu'il a. Encore une fois, le bon Dieu ne vous demande pas pendant la Sainte Messe de faire un exercice de latin pour comprendre chaque mot du latin. Bon, c'est pour ça qu'il y a des missels. Et c'est une bonne chose pour les fidèles de lire en français les prières de la messe. Pas obligatoire, vous pouvez très bien suivre votre sainte messe d'une autre façon. Par exemple, il y en a qui peuvent prier le chapelet pendant la messe, il y en a qui peuvent méditer tout simplement sur la passion de notre Seigneur pendant la messe, c'est très bien, chacun fait un peu ce qu'il peut. Et donc, le père Le Breton ici fait une remarque, que j'ai déjà faite, telle est la faiblesse de la nature humaine que même les saints ne sont pas exempts de ces sortes de distractions. Bon, les distractions involontaires donc ne sont pas des péchés. Par contre, les distractions volontaires sont un péché qui détruit l'effet de nos prières, mais celles qui sont indélibérées ne les rendent pas infructueuses. Encore une fois, on ne peut pas éviter les distractions, mais il faut aussi se placer dans des conditions telles qu'on n'augmente pas les distractions. Ce n'est pas la peine d'en rajouter, elles viennent toutes seules. C'est évident que quelqu'un qui va dire son bréviaire en faisant autre chose à la fois, ben, il va avoir plein de distractions. Il y a un texte ici de Saint Basile, affaibli par le péché, vous ne pouvez fixer votre esprit, mais pourvu que vous fassiez votre possible pour le retenir, Dieu vous pardonne de n'être pas en sa présence comme il convient. C'est l'effet de notre faiblesse, de votre faiblesse et non de votre négligence, dit Saint Basile. Donc n'espérez pas assister à la Sainte Messe sans aucune distraction, c'est pratiquement impossible. Donc une maman, par exemple, qui s'occupe de son enfant pendant la messe pour le faire taire, pour le faire éviter qu'il bouge, par exemple pour gêner tout le monde, même si en faisant ça elle ne peut pas prier tel qu'elle le voudrait. Moi j'ai vu des mères de famille qui sont incroyablement incroyablement vertueuses, parce que elle voudrait que ces choses, je vois quand je dis la messe dans les familles par exemple, je commence la messe, elle ne demande qu'une seule chose, c'est pouvoir assister à la messe tranquillement. Elle prie, mon Dieu, que mon bébé ne se réveille pas pendant la messe. Et ça rate pas, au bout de 2 minutes de messe, paf, le bébé se réveille, commence à crier. Bon, j'ai un moment qui fait un grand soupir et qui va chercher son bébé. Et ce qui est du bébé ne peut pas assister à la messe. Et bien, elle se sanctifie comme ça. C'est pour ça qu'il faut, je pense que c'est une très bonne chose, c'est un détail, mais je pense que c'est une très bonne chose que les mamans essaient d'assister à la messe le dimanche, même avec leur bébé. Sauf si le bébé est tellement agité que vraiment il empêche tout le monde de prier autour. Vraiment une distraction pour tout le monde. Bon, alors à ce moment-là, c'est le devoir d'État de la maman de le sortir pour calmer l'enfant. Dans les endroits, c'est rare, dans les endroits, quand il est prieuré avec par exemple 2 messes, souvent le papa venait à une première messe et la maman à une deuxième messe pour que chacun puisse y aller. Bon, aux États-Unis, on avait une coutume, mais je l'ai vu que là-bas. Un peu dans les pays d'anglais, mais surtout aux États-Unis, dans toutes les chapelles, il y avait l'aquarium, ce qu'on appelle l'aquarium ou la chambre des pleurs. C'était à côté de la porte d'entrée, il y avait une pièce fermée, capitonnée, avec une grande vitre qui permettait d'assister à la messe derrière la vitre. Et il y avait le micro, les paroles du sermon, de la messe, étaient entendues par les gens qui étaient dans cette salle. On appelait ça la chambre des pleurs. Bon, c'est là que les mamans se mettaient avec les enfants, et que l'enfant commençait à prier. Mais j'avoue que je ne suis pas forcément pour ce genre de choses-là, parce que les mamans avaient trop tendance à aller systématiquement là-dedans, parce qu'elles savaient que leur bébé risquait d'être un peu agité, pleurait pendant la messe. Et du coup, les enfants ne faisaient pas l'effort d'apprendre à se taire. Je pense que c'est une question d'éducation qui est très importante, à expliquer aux enfants, les petits peuvent très bien le comprendre, expliquer aux petits que la chapelle c'est quelque chose de parfaitement sacré, que donc là on se tient correctement, on ne fait pas de bruit et on ne bouge pas. Et quand les enfants sont bien éduqués, moi j'ai connu des enfants de 2-3 ans qui étaient capables d'être parfaitement silencieux pendant la messe. Hein. Bon, ce n'est pas toujours le cas. Et je ne dis pas que c'est la faute des parents, parfois ça ne l'est pas. Hein. Article 14. La prière doit-elle être de longue durée? Alors, notre Seigneur Jésus-Christ dit, il faut toujours prier, ne point se lasser. Et Saint Paul rajoute, prier sans cesse. Il disait ça aux Thessaloniciens. Donc on pourrait croire que la prière doit être de longue durée. Non, parce que la prière, ce qui compte, c'est l'intensité de prière. D'accord? Et dans certains cas, le bon Dieu ne demande pas à quelqu'un qui a un devoir d'État à faire de prier pendant des heures et des heures. C'est comme, je ne sais pas moi, Monseigneur Lefebvre nous faisait la remarque, par exemple, au séminaire, je me rappelle, il y avait des séminaristes qui avaient tendance, après la messe du matin, à la fin de la messe du matin, donc on avait une action de grâce de 5-10 minutes, et ensuite on allait prendre le petit déjeuner. Mais il y en a qui restaient 20 minutes, 25 minutes, leur action de grâce après la messe, et après ils allaient prendre le petit déjeuner. Du coup, ils dérangeaient tout le monde parce que les gens, les séminaristes qui étaient de service de table pour nettoyer les tables, préparer les tables pour le repas de midi, devaient attendre que les séminaristes très pieux aient fini leur petit déjeuner parce qu'ils commençaient en retard. Monseigneur Lefebvre leur a dit : vous manquez de charité. Donc, vous faites vos 5-10 minutes d'action de grâce après la messe. Lorsque la cloche sonne pour le petit déjeuner, vous allez prendre votre petit déjeuner. Et après, il y a un temps libre avant les premiers cours. Là, vous pouvez retourner à la chapelle et terminer votre action de grâce. Vous voyez, moi, ça m'arrive très souvent quand je suis dans les familles où manifestement toute la famille attend pour le petit déjeuner que je sois là. Je ne vais pas faire une action de grâce une demi-heure après la messe, alors que tout le monde attend et les enfants attendent en piaffant. Donc, je vais à ce moment-là avec la famille. Et puis, dès que j'ai un moment libre après le petit déjeuner, après le repas, à ce moment-là, je continue mon action de grâce. Donc voilà ce que dit saint Thomas, article 14. La prière considérée dans sa cause, qui n'est autre que le désir de la charité par laquelle nous devons rapporter toutes nos actions de grâce à la gloire de Dieu, doit être continuelle. C'est-à-dire, l'homme doit vivre habituellement, continuellement, dans un acte de charité permanence. Ça ne veut pas dire qu'il doit constamment répéter cet acte de charité. C'est pour ça qu'il est très important en début de journée d'offrir sa journée. Divin cœur de Jésus, je vous offre par le cœur immaculé de Marie mes prières, mes œuvres, mes souffrances de toute cette journée en réparation de mes péchés et pour toutes les intentions pour lesquelles je vous immolais sur l'autel. Et donc à ce moment, toute votre journée est offerte à Dieu par avance. Bon. Maintenant, dans la journée, il est bon de renouveler un petit peu cette intention. On ne peut pas toujours le faire. Il y a une bonne coutume qui est respectée dans certains pays, ce qu'on appelle prier l'heure. Donc au début de chaque heure, lorsque la cloche du village sonnait au clocher, indiquant une nouvelle heure, eh bien les catholiques s'arrêtaient même au milieu de leur travail pendant 10 secondes, disant « Mon Dieu, je vous adore et je vous offre tout mon travail de cette heure qui arrive par amour pour vous. » Et puis ils reprenaient leur travail. Ils le faisaient de façon privée, personne n'est ordonné ce qu'ils disaient, mais c'est une très bonne chose. Et c'est pour ça que les églises avaient des cloches qui sonnaient aux heures. Donc pour rappeler au bon Dieu, c'était le but des cloches. Les cloches ont toute une série de rôles. Elles chassent les démons, mais elles ont aussi un rôle très important dans la glorification. La gloire de Dieu manifestée par le son des cloches. Parce qu'elles rappellent justement la cloche qui sonne au clocher, rappellent à tous les gens du village qu'il y a une église, le bon Dieu dans l'église, et que la cloche rappelle notre devoir d'adoration. Donc saint Augustin observe que la foi, l'espérance et la charité doivent être en nous une prière perpétuelle. Donc il faut constamment vivre en état de charité, constamment vivre en état de foi et d'espérance. Ça ne veut pas dire qu'il faut prier tout le temps, parce que ce n'est pas possible. Donc il faut que la prière dure autant qu'elle entretienne la ferveur du désir intérieur. Donc, si la prière, lorsqu'elle dépasse cette mesure, cause dégoût et ennui, il faut la cesser. Bon. Sauf si le fait qu'on prie entraîne immédiatement de l'ennui et du dégoût. Il y a des gens qui me disent, monsieur l'abbé, moi je suis ce conseil de saint Thomas, donc dès que je commence à être dégoûté, ennuyé par la prière, j'arrête. Alors, ça dure, ça vient au bout de 5 secondes, donc je ne prie plus. Mais non, il faut faire un effort. Mais il est évident que le bon Dieu n'est pas avec un chronomètre pour mesurer le temps de prière que nous avons. Bon. Il ne faut pas croire aussi forcément que plus une prière est longue, plus appelée au bon Dieu. Ça, c'est important pour comprendre les réformes du pape Pie XII, la semaine sainte. Et même dans d'autres endroits, par exemple, le pape Pie XII a aussi réformé l'office de la vigile de la Pentecôte. Avant, il y avait toute une série de leçons. À la semaine sainte, il y avait énormément de leçons aussi qui ont été raccourcies par le pape Pie XII. Beaucoup de prêtres et des vacantistes, entre autres, refusent les réformes du pape Pie XII. En disant non, avant c'était plus long, donc je prends les formules d'avant. Attention, le pape Pie XII étant pape légitime, il est infaillible dans ses réformes liturgiques, et donc il y a une obligation grave, sous peine de péché grave, de suivre les réformes du pape Pie XII, qu'elles plaisent ou non. Sinon, c'est un esprit complètement schismatique. Alors, on voit ça maintenant de plus en plus dans les milieux de la tradition célibacantiste. Aux États-Unis, c'est épouvantable, un pays anglais, de langue anglaise aussi. Ici, ça commence à arriver en France, où les gens vous disent vous êtes un libéral parce que vous célébrez la semaine sainte de Pie XII. Attention, Pie XII est pape. Donc, puisqu'on reconnaît Pie XII comme pape, on est tenu de suivre ces réformes, qu'elles plaisent ou non. Bon, si le pape Pie XII a mis, par exemple, la fête de Saint-Joseph artisan au 1er mai, on est tenu sous peine de péché grave de dire cette messe au 1er mai. Et si un prêtre me dit moi, ça ne me plaît pas du tout cette réforme, donc je continue à dire la messe de Saint-Philippe et Saint-Jacques qui était avant au 1er mai, que maintenant, et qui a été déplacée par le pape Pie XII pour être célébrée le 12 mai. Bien, comme une faute grave. Parce qu'il commence à faire entrer son subjectivisme là-dedans et choisir par lui-même ce qui lui plaît. Ça me plaît, je garde, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Je rejette. Non. C'est pareil pour les cérémonies de la semaine sainte. On peut ne pas aimer les réformes de la semaine sainte de Pie XII. On peut regretter peut-être certaines des prières qui avaient lieu avant. Mais Pie XII étant pape, on est tenu sous peine de péché grave d'obéir au pape. L'obéissance au pape est nécessaire au salut, attention. On voit beaucoup trop de cet esprit, que j'appelle un esprit schismatique dans ce domaine. Encore une fois, on peut étudier les anciennes cérémonies de la semaine sainte, mais Pie XII n'est pas, moi je crois que Pie XII n'est pas, jusqu'à sa mort, donc jusqu'en 1958. Bon, après, c'est autre chose, avec l'arrivée de Roncalli, l'arrivée de Jean XXIII, bon, alors là, c'est bien n'importe quoi, mais jusqu'à la mort du pape Pie XII, on est tenu. C'est pour ça que j'ai toujours célébré la Semaine Sainte avec les reliques du pape Pie XII et je suis le missel du pape Pie XII, 1958. Le missel d'hôtel que j'ai ici, il est de 58 ou 59, puisqu'il y a peu de changements après. Entre 58 et 59, je ne crois pas. Donc, article 15. Donc, j'ai un peu vite sur toutes ces choses-là parce que il faut avancer quand même. Donc, la prière est-elle méritoire ? Donc voilà ce que dit saint Thomas. La vertu de mériter lui vient de la charité par l'intermédiaire de la religion, de la foi et de l'humilité. Si quelqu'un prie dans la charité, charité c'est quoi? C'est l'état de grâce. Eh bien sa prière est méritoire ipso facto. Alors une objection c'est comment se fait-il à ce moment-là que saint Paul, qui demandait d'être exaucé par Dieu quand il demandait d'être délivré d'un aiguillon qu'il avait dans la chair, il a demandé trois fois au bon Dieu d'être délivré de cet aiguillon et pourquoi le bon Dieu n'a-t-il pas obtempéré à la prière de saint Paul? Et la raison est toute simple, parce que cela ne lui était pas utile pour le ciel. Si vous demandez quelquefois ne recevez pas, dit saint Basile, c'est que vous demandez mal, ou que vous demandez ce qui ne vous est pas utile, ou que vous ne persévérez pas. Bon, parfois on voit des jeunes qui passent un coup de téléphone, c'est mais il y a le bac demain, et vous pouvez prier pour que je réussisse mon bac. Vous avez travaillé votre bac? Non, j'ai rien fichu. Non, je ne veux pas prier pour ça. Parce que si vous n'avez rien fichu, vous ne méritez pas d'avoir votre bac. Ah, mais bon Dieu peut faire un miracle. Bon Dieu ne fait pas de miracle sans nécessité. Donc, si vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas votre bac. Et si vous avez votre bac, là, vous n'avez rien fichu, vous ne méritez pas votre bac. Donc, quatre conditions sont requises pour obtenir infailliblement ce que l'on demande. Prier, ces quatre conditions dont saint Thomas parle souvent. Prier pour soi-même. Hein. prier avec piété, avec persévérance, et demander des choses utiles au salut. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier pour l'autre. Hein. Et pour qu'une prière soit méritoire, il faut être en état de grâce. Donc, si quelqu'un est en état de péché mortel, il doit prier le bon Dieu quand même, d'obtenir, pour obtenir de lui les grâces qu'on appelle des grâces actuelles, pour retrouver l'état de grâce le plus vite possible. Mais si vous priez pour le voisin, vous ne savez pas si le voisin est en état de grâce. Si le voisin est objectivement en état de péché mortel, vous pouvez prier pour lui. Le péché mortel bloque la prière, l'efficacité de la prière. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde, peut utiliser vos prières pour convertir le voisin. C'est pour ça que saint Thomas parle de quatre nécessités pour la prière, quatre conditions pour qu'une prière soit efficace. Prier pour soi-même avec piété, avec persévérance, en demandant des choses utiles au salut. Donc vous avez ça sur le, là j'ai mis le texte, page 103, le troisième paragraphe de la page 103 sur le polycopier. Sans la grâce sanctifiante, dit saint Thomas, la prière n'est pas méritoire, non plus que les autres actes vertueux. Il y a donc quatre conditions dans la réunion fait qu'on obtient toujours ce qu'on demande. C'est ce que je viens d'expliquer, prier pour soi, les choses nécessaires au salut, avec piété et avec persévérance. Quand le pécheur prie sous l'inspiration d'un bon désir de la nature, Dieu l'exauce non par justice, car le pécheur ne le mérite pas, mais par pure miséricorde, pour toutefois que soient sauvées les quatre conditions. Vous voyez ? Donc un pécheur qui prie avec humilité, pour lui-même, avec piété, avec persévérance, en demandant des choses utiles pour son salut, peut obtenir ses prières, même s'il est en état de péché mortel. Article 16. Les pécheurs obtiennent-ils quelque chose par la prière ? Donc, on va terminer, je me suis terminé à question 83. Donc, les prières, les pécheurs obtiennent-ils quelque chose par la prière ? Donc, voilà ce que dit saint Thomas. Question, article 16 de la question 83. Si Dieu n'exerçait les pécheurs, le publicain aurait dit en vain : Seigneur, soyez-moi propice à moi, pauvre pécheur. Donc, il faut considérer dans les pécheurs la nature humaine qui est aimée de Dieu et le péché qui en est détesté. Donc aimer le pécheur, détester le péché. Et pas aimer le péché. C'est toute la différence qui existe entre l'Église catholique et l'Église du Vatican II. L'Église catholique dit Dieu aime le pécheur mais déteste le péché. Donc, dans l'Église du Vatican II, il n'y a plus cette notion. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ prie pour tous les pécheurs et tous les pécheurs peuvent venir à notre Seigneur Jésus-Christ et obtenir le pardon de leurs péchés. Ils oublient dans l'Église de Vatican II toujours de préciser une condition sine qua non à condition de regretter leurs péchés. Donc, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ guérit l'âme de quelqu'un, il dit toujours, après avoir demandé un acte de foi, il voit que la personne vient à lui avec foi pour demander le pardon de ses péchés. Et notre Seigneur Jésus-Christ pardonne les péchés, mais il dit « Allez et ne péchez plus ». C'est ce qu'il veut dire à Sainte Marie-Madeleine. « Va et ne péche plus ». Donc, quelqu'un qui s'approche de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas l'intention de quitter le péché, ben, sa prière vaut rien. Non seulement sa prière vaut rien, mais c'est l'hypocrisie. Il rajoute un péché à tous ses problèmes. Donc, il faut considérer encore une fois la nature humaine, qui est aimée par Dieu. Donc, Dieu aime tous les pécheurs, mais il déteste le péché. Donc, il aime le pécheur, mais demande comme condition sine qua non que le pécheur déteste son péché. Donc, il aime le pécheur repentant. Est-ce que le bon Dieu aime le pécheur non repentant ? Réponse, le bon Dieu aime la nature du pécheur non repentant, mais il n'aime pas le fait que le pécheur ne veut pas quitter son péché. Et donc, là, si le pécheur ne veut pas quitter son péché, notre Seigneur Jésus-Christ ne va rien donner du tout, c'est absolument évident. Lorsque le pécheur prie, donc d'après les bons sentiments de sa nature, Dieu l'exauce, non par justice, encore une fois, c'est cette phrase que j'ai déjà citée qui est très importante, donc l'article 16. Lorsque le pécheur prie d'après les bons sentiments de sa nature, Dieu l'exauce, non par justice, car aucun homme ne mérite rigoureusement un état de péché, mais par miséricorde, pourvu que ce pécheur demande avec dévotion et persévérance les choses nécessaires à son propre salut. Donc si quelqu'un avec humilité regrette son péché, il devient pécheur pénitent. Dieu écoute le pécheur pénitent. Au contraire, le pharisien qui se présente devant notre Seigneur Jésus-Christ et qui se vante de tout ce qu'il a fait, qui n'a aucune immunité, le bon Dieu dit qu'il va quitter l'Église sans avoir été pardonné. Donc tout homme, tout pécheur, quel qu'il soit, peut demander des choses conformes à la vertu de religion, à la religion, et alors, bien que sa prière ne soit pas rigoureusement méritoire, elle peut être exaucée, car le mérite repose sur la justice, mais l'impétration vient de la grâce. Donc Dieu, dans sa miséricorde, écoute le pécheur, à condition que le pécheur soit repentant. Donc de faire croire aux gens qu'on peut être exaucé de Dieu sans être repentant, c'est l'hypocrisie pure et simple. C'est un mensonge. Alors, dernier article de cette très longue question 83. Les parties de l'oraison sont-elles la prière, la demande, l'obsécration et l'action de grâce? Bon, il y a différentes façons d'expliquer ces choses-là. Donc, pour simplifier, on peut utiliser le mot ardor, que j'explique souvent aux petits pour expliquer, ou aux adultes même, pour expliquer comment faire une action de grâce. Ardor, c'est adoration, remerciement, demande, offrande et réparation. On peut aussi prendre les quatre fins de la messe, parce que la messe c'est la plus belle des prières. Donc les fins de la messe sont les fins de la prière, c'est la même chose. Donc la fin la plus importante dans la messe, c'est la fin de propitiation. Offrir la messe en réparation ses péchés. Donc on prie en réparation de nos péchés, mais aussi la fin d'adoration, la fin impétratoire, la fin de demande de péché. Pardon, la fin impétatoire pour demander les grâces dont nous avons besoin, la fin d'adoration et la fin d'action de grâce. D'accord ? Mais la plus importante, c'est la fin de, par laquelle la Sainte Messe ou la prière est offerte pour réparer nos péchés. Donc la Sainte Messe, c'est d'abord la réparation du péché, la fin propitiatoire, bien que les autres fins soient aussi importantes. La fin impétatoire, la fin eucharistique, les quatre fins de la messe sont donc très importantes. Voilà ce que dit saint Thomas à l'article 17. L'oraison implique essentiellement la prière ou l'élévation de l'âme vers Dieu. La demande, l'obsécration, hein, c'est-à-dire les formuler ses demandes. L'obsécration, c'est dans le sens de demander les grâces dont nous avons besoin et l'action de grâce. Nous trouvons ces quatre parties de l'oraison dans la collecte suivante de l'office de la Sainte Trinité. Dieu Tout-Puissant et Éternel, élévation de l'esprit vers le bon Dieu. Qui avait donné à vos serviteurs, c'est l'action de grâce. Accordez-nous, s'il vous plaît, on demande, par notre Seigneur Jésus-Christ, l'obsécration. Donc, il ne faut pas oublier ça, on verra ça plus tard, dans la partie de la somme sur les sacrements, la fin de la somme, notre tertia pars, donc justement les fins de la prière, les fins d'adoration, fin de demande, fin d'action de grâce, et fin de réparation pour nos péchés. Donc toute prière se calque en quelque sorte sur la messe. Bon, la prière de la messe, c'est la prière la plus parfaite. La prière la plus parfaite parce que c'est l'offrande de ce qu'il y a de plus parfait dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a de plus parfait dans le monde? C'est l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ jointe à sa divinité. Donc il n'y a rien de plus parfait qu'une messe. Bon. Mais on offre la Sainte Messe d'abord en réparation de nos péchés. Ça, c'est très important face aux protestants, face aux modernistes. L'Église de Vatican II, il nie complètement la fin propitiatoire. Il n'accepte que les trois autres fins. L'adoration, ça évolue bien, la demande et le remerciement, très bien, mais pas l'impétration. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a déjà ouvert les portes du ciel, donc tous les gens sont sauvés par la foi entre Seigneur Jésus-Christ. Attention, notre Seigneur Jésus-Christ nous demande d'offrir la messe en réparation de nos péchés, parce que même après que notre Seigneur Jésus-Christ ait réouvert les portes du paradis, ça ne veut pas dire qu'il a réouvert les portes du paradis, mais malheureusement les gens continuent de pécher. Et donc le péché devient un obstacle à l'entrée au paradis, même si les portes sont ouvertes. Les protestants et les modernistes disent, les portes sont ouvertes, donc tout le monde va au paradis, alléluia. Non, c'est faux. Les portes sont ouvertes par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, les portes du paradis étaient fermées. Elles sont ouvertes par la passion de notre Seigneur, la résurrection, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Ça ne veut pas dire que tout le monde y va. Parce que la condition sine qua non pour aller au ciel, c'est évidemment la condition d'être en état de grâce. C'est pour ça que la messe est utilisée d'abord et avant toute chose pour réparer les péchés. Alors, nous en sommes donc d'en terminer avec cette question 83. Pour ceux qui ont la somme, je vous conseille beaucoup de relire cette magnifique question numéro 83 sur la prière. Ensuite, saint Thomas d'Aquin va Dans les autres questions, on est toujours sur le traité sur la vertu de religion. Il va parler en question 84, que nous commençons, si Dieu veut, vendredi prochain. Donc l'adoration, et ensuite le sacrifice, et des questions après un peu moins importantes sur les oblations, les dîmes et tout ça, où je passerai assez vite pour m'arrêter sur les choses plus importantes. Alors, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.